réalité historique un peu différente. Le thème exact étant réécrire le passé pour réenchanter le monde. Donc avec nous, nous avons Jacqueline Carrel, qui nous vient des États-Unis et qui a publié chez Bragelonne la trilogie Cuchiel. Nous avons Christina Rodriguez, qui a publié chez Le Masque des polars historiques, centré sur l'Antiquité. À ma droite, nous avons Philippe Despotes, qui est Jean-Philippe, pardon, qui a publié Les Deux Mondes de Paris chez De Noël, dans la collection De Noël, tout court, en fait. Et à l'extrême droite, nous avons Laurent Gidon, nous avons Laurent Gidon qui a sorti plusieurs romans, dont deux chez Mnemos, donc Jib le chanceur et Jib l'encourseur, c'est ça, qui est ici en avant-première. Il a également publié il y a quelques années Aria des Brumes chez Le Navire en pleine ville, qui a hélas disparu. Et il a également publié un recueil de nouvelles, Blagues à part, aux éditions Griffes d'encre. Voilà. Alors pour commencer, j'aimerais vous poser une question que j'ai l'habitude de poser à tous mes invités en général. Vous souvenez-vous de votre première rencontre avec l'imaginaire ? Qui veut commencer ? Allez, Christina.
Alors la première rencontre avec l'imaginaire, au sens large, on va dire, c'était, je pense que comme tous les enfants, c'est-à-dire avec les contes et légendes. Alors je sais pas, c'est, alors les gens de ma génération ont dû connaître ça. Vous savez, c'était les petits bouquins qu'il y avait avec les contes et légendes des régions. On parlait justement des légendes des régions françaises et des fées et des lutins. Et ça a été ma première rencontre qui n'a rien à voir avec l'histoire, mais c'est comme ça que j'ai commencé.
Philippe, ça marche. Non, mais donc, effectivement, moi, je me souviens pas de ma première rencontre avec l'imaginaire, parce que c'est évident que dès qu'on est petit, on commence à imaginer plein de choses et on découvre le monde en imaginant. Mais surtout, moi, ce qui me semble important, c'est à quel point il est important, en grandissant, au fur et à mesure qu'on perd, en vieillissant, la facilité d'imaginer et de se représenter les choses, justement, de continuer à... Entre guillemets, se forcer et en particulier, je pense à l'histoire et aux livres d'histoire, et garder cette imagination ouverte, même quand on lit des livres d'histoire sur des périodes qui n'ont rien d'amusante, mais en particulier, essayer toujours d'aller plus loin, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire, d'aller plus loin que les faits et essayer d'imaginer en permanence des histoires. Fictives, mais qui auraient pu un peu agrémenter l'histoire réelle, qui n'est pas toujours la plus amusante.
I think, like a lot of children of my generation, C.S. Lewis was one of the first magical realities I encountered, but it's appropriate to note for this panel that the first grown-up book that really took me away was in fact historical fiction.
Donc, comme beaucoup d'enfants de ma génération, la première réalité magique finalement que j'ai rencontrée, c'était le livre de C.S. Lewis. Mais dans le cadre de cette table ronde, je pense que ce serait intéressant de signaler que le premier livre pour adultes que j'ai rencontré, qui m'a emporté véritablement, c'était de la fiction historique.
It was actually The Persian Boy by Mary Renault, set in ancient Greece. And I was at camp and very, very bored. I'd run out of all my books, and the counselor had this. And I asked if I could read it. She said, "Oh, I think it's too grown up for you." But I begged and begged, and she let me. And the world of ancient Greece came alive for me.
Donc ce livre-là, en fait, c'était un livre de Mary Renault sur la Grèce antique. J'étais en colonie de vacances, je m'ennuyais terriblement et j'avais épuisé tout le livre que j'avais à lire. Et j'ai demandé au counselor, donc, qui est l'équivalent en gros des gens qui encadrent ce genre de camp, disons, qui avait ce livre-là, si je pouvais le lire. Elle m'a dit non, à mon avis, je pense que c'est un peu trop pour adultes pour toi. Et j'ai supplié. Finalement, elle a fini par me le prêter, me laisser le lire. Et là, le monde de la Grèce antique a véritablement pris vie pour moi.
Laurent. Bon, moi je suis désolé, je suis pas comme Christina. Je n'aimais pas les contes parce que ça me faisait peur. Je trouvais que les méchants étaient très très méchants et j'en ai lu très peu et j'ai très rarement demandé à mes parents de m'en lire. En revanche, je crois que ma première rencontre avec quelque chose qui m'a paru être de l'imaginaire alors que ce n'en était pas du tout, c'était les livres d'Henri de Montfred. Où là, je suis vraiment parti, La croisière du haschich, La poursuite du caïpan. Je sais, ça s'appelle La croisière du haschich, de nos jours, c'est pas... Mais à l'époque, c'était un haschich culturel. Et ça m'a emmené à des endroits que j'imaginais même pas. Et après, ma première vraie rencontre avec ce qu'on appelle maintenant de l'imaginaire, ça a été, je me rappelle précisément, mes parents, lors d'un repas, se passaient une phrase comme un mot code, et ça disait « qu'est-ce qu'un gomme jabar ?» Et ils se marraient en se disant « ah, qu'est-ce qu'un gomme jabar ?» Et je me demandais d'où ça sortait, ce truc-là, et je leur ai piqué ce bouquin à couverture métallisée, où c'était juste marqué « dune » dessus, et je devais avoir 11 ans. Et j'ai lu ça et pouf, je suis pas encore complètement retombé.
Merci.
Donc vous avez tous écrit de nombreux romans. Donc une double question. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire de l'imaginaire et précisément qu'est-ce qui vous a poussé à vous inspirer de l'histoire passée?
I think I said this at the opening ceremonies, that I write books I wish existed and create worlds I'd like to live in. History, I love it. I'm fascinated by it. And to be able to play in that playground was an exciting opportunity for me.
Donc c'est un peu quelque chose que j'ai abordé à la cérémonie d'ouverture ce matin. En fait, j'écris des livres dont je regrette l'inexistence, donc j'écris des livres que je voudrais voir exister et je crée les mondes dans lesquels j'aimerais vivre. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est une littérature qui m'a fasciné. En fait, l'histoire me fascine, je l'aime énormément et avoir l'opportunité de jouer dans ce bac à sable est extrêmement, extrêmement enthousiasmante.
Et pourquoi avoir choisi la France pour vous inspirer de Terre d'Ange?
Two-part answer. One, it was inspired by a trip to France, and 2 weeks I spent in Provence, where I just really became enamored of the landscape, the light, the scents, everything about it.
Ma réponse, il y a deux points pour vous répondre. Tout d'abord, ce monde-là m'a été inspiré par un voyage en France, en Provence, très exactement, où j'ai passé 2 semaines et je suis véritablement tombé amoureuse là-bas du paysage, des parfums et de tout ce que j'y ai vu.
And then the second part, I was intrigued by a mythology I'd read about many, many years ago. A myth in which the bloodline of Jesus Christ was continued through Mary Magdalene. Little known myth at the time. Small novel called The Da Vinci Code kind of blew that up. But that was also part of the inspiration for the setting.
Et le deuxième point, c'est que j'étais assez intrigué sur une forme de mythologie que j'avais lue des années plus tôt, où, d'après cette légende, la lignée de Jésus-Christ aurait continué à travers Marie-Madeleine, petite mythologie qui n'était pas trop connue à l'époque, mais qui depuis a quelque peu explosé depuis l'apparition d'un petit roman anecdotique qui s'appelle le Da Vinci Code.
Il devrait en faire un film, je pense que ça marcherait aussi. Christina.
Pour moi, alors c'est peut-être un avis un petit peu erroné, il y a deux genres de littérature. Il y a ce qu'on appelle dans l'édition la littérature blanche. Vous savez, c'est les livres où il n'y a pas de jaquette, vous avez juste la couverture blanche et le titre dessus, c'est-à-dire, c'est une littérature que moi personnellement je n'aime pas beaucoup, on se raconte, on met un petit peu ses pensées, ses envies, enfin bon. Et il y a ce qu'on appelle la littérature de genre. La littérature de genre, c'est de la SF, c'est de l'historique, c'est du polar, ça peut être... un joyeux mélange, parce que maintenant on a une tendance à mélanger les genres, et je trouve que c'est très très bien. Et ça, c'est de la littérature que l'on fait pour faire plaisir au lecteur, vraiment pour amuser, pour faire passer un bon moment. Donc dès lors qu'on parle de littérature de genre, on est dans l'imaginaire. Après la littérature blanche, là c'est autre chose.
Et pourquoi avoir choisi l'Antiquité plus spécialement?
C'est l'Antiquité entre autres, parce que c'est vrai que moi, je suis tombée amoureuse de Caligula quand j'étais toute petite. Mais partant d'un personnage en fait complètement, comment on peut le qualifier, très à la fois mal aimé et en même temps qui fascine. Donc moi, j'avais 13 ans à l'époque, et puis partant de lui, on est parti à connaître sa famille, et puis là où il habite, et puis l'époque, et voilà. Et à partir de là, ça fait un peu des cercles comme ça, des cercles et des cercles. On a grandi, on finit par aimer l'Antiquité. Mais j'ai commencé par écrire sur l'Antiquité, mais je n'ai pas écrit que sur l'Antiquité. C'est vraiment l'imaginaire au sens large, et on en revient à ce que je disais tout à l'heure.
Laurent ? Non, mais justement, c'est pour...
L'imaginaire, moi, ça a été a priori par modestie, parce que je trouve que la réalité est très complexe à rendre. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Christina, encore une fois, qui va finir par m'en vouloir, mais je n'ai rien contre la littérature blanche qui creuse l'intérieur de l'humain, mais je pense qu'il faut avoir vécu pas mal pour savoir écrire ça de façon intéressante et pour que des lecteurs puissent y prendre plaisir. Et j'ai commencé à écrire des histoires dites imaginaires, justement pour pas trahir la réalité. J'ai préféré inventer une autre réalité. Et en même temps, je me suis mis à écrire ce qu'on appelle de la littérature blanche, mais en essayant de le faire avec le plus de sincérité possible. Donc c'est vrai que ce sont des histoires qui n'ont pas l'ampleur, le faste, le chatoyant de ce qu'on peut trouver dans Jib, par exemple, où là, j'invente un monde pour qu'il soit comme j'aimerais que le nôtre soit, peut-être, mais en tout cas, dans lequel je suis sûr de ne pas mentir.
Pour ma part, en fait, quand j'ai commencé à écrire les démons de Paris, je voulais avant tout raconter une intrigue. Avant de penser à l'histoire et avant de penser au lieu dans lequel ça allait, à l'époque et le lieu dans lequel ça allait prendre place, ce qui m'intéressait avant tout, c'est la structure de l'intrigue. Concrètement, en démarrant, j'avais en tête un film qui me fascine, qui est Arnaque, crime et botanique de Guy Ritchie, où la structure du scénario de ce film me fascine. Donc j'ai tracé des schémas pour essayer de comprendre comment il avait fait, et vraiment je voulais une histoire de ce type-là, avec des intrigues qui se croisent et qui s'enfoncent et qui brusquement, par magie à la fin, ferment toutes les portes et répondent à toutes les questions en une seule scène. Et c'est seulement après que je me suis demandé où allait prendre place, quel allait être le théâtre de l'histoire. Donc c'était forcément de l'imaginaire, ça ne pouvait pas être de la littérature blanche, puisque je voulais raconter à tout prix une histoire de la trempe de Arnaque, crime et botanique. Et ensuite, il se trouve que j'ai toujours adoré les livres d'histoire, j'ai toujours lu beaucoup sur plein d'époques, et donc là c'était le moyen idéal de mettre à profit tout ce que j'avais lu, toutes les histoires. Et j'ai pensé à la Belle Époque à Paris, parce que ça me semblait, comme c'était une histoire qui mélangeait l'occulte et le policier. La Belle Époque, avec mes souvenirs de Tardi et d'Adèle Blanc-Sec quand j'étais petit, et puis aussi une époque où la science était naissante. La science était naissante et, par exemple, quand il y a... Oups, ça marche ? Par exemple, il y avait énormément de médiums à l'époque qui avaient pignon sur rue et on faisait des démonstrations publiques d'électricité où on faisait des décharges électriques entre deux boules de cuivre. Et pour les gens, tout ça se mélangeait et le médium qu'ils avaient vu la veille et l'expérience scientifique le lendemain, c'était un peu présenté de la même manière. Et donc c'est l'époque idéale pour traiter d'histoires qui mélangent un peu justement... De l'au-delà, de fantômes et de science en même temps.
Vous avez été influencé par les livres, enfin des films, comme l'a pu l'être Jean-Philippe avec Arnaque, Crime et Botanique. Christina.
Oui, bien sûr. Excusez-moi, j'ai des mains qui tremblent. C'est pas que je suis en manque de quoi que ce soit, c'est que j'ai des faiblesses au poignet. Oui, bien sûr. Moi, j'ai été influencé par de la SF, surtout par des auteurs anglo-saxons. Michael Moorcock, avec la fameuse saga d'Elric, bien sûr. J'ai été très influencée aussi par un auteur anglais qui s'appelle Tanit Lee. Moi, je trouve qu'elle écrit magnifiquement bien. Et pour de l'historique, c'était les grands classiques. C'est Alexandre Dumas, bien sûr. Je crois que rares sont les personnes qui ont écrit de l'historique comme a su le faire Alexandre Dumas. Et c'est vrai que le bouquin qui m'avait complètement fait craquer, c'était Ascanio, à l'époque.
Je vais être d'accord avec Christina. Alexandre Dumas, c'est top. Mais quand j'ai lu Les Trois Mousquetaires, par exemple, pour moi, c'était de l'histoire. Et je n'avais pas encore lu sa phrase qui disait qu'on pouvait violer l'histoire si on lui faisait des beaux enfants. Pour moi, c'était aussi vrai que ce que j'avais dans mes livres d'histoire à l'école. Et c'est peut-être ce qu'il y a de magique là-dedans. Je ne sais pas si l'histoire telle qu'elle est racontée par Alexandre Dumas est vraie, mais j'ai l'impression que les sentiments que ces personnages vivaient et les aventures qu'ils ont vécues, cela était possible, ou en tout cas étaient des sentiments et des aventures qu'auraient pu vivre des gens de l'époque. Si je compare par exemple avec d'autres livres d'auteurs très célèbres qui vendent beaucoup de bouquins en série sur l'Égypte ancienne, où je parle de personnes en particulier, mais vous avez peut-être vu ces deux prénoms, et où on a l'impression que ce sont des histoires d'aujourd'hui repeintes à l'égyptienne. Ce que j'ai vu avec Alexandre Dumas, c'est de l'histoire enchantée, vraiment, même si c'est réaliste et sans aucune aide d'un imaginaire tel qu'on le conçoit aujourd'hui.
Jacqueline?
I actually would add a third for Alexander Dumas, who was somebody I revisited when I was looking for the tone I wanted for the Kushiel books, to get that combination of intrigue and swashbuckling across.
J'ajouterai une troisième référence en plus d'Alexandre Dumas, pour ma part, c'est-à-dire un livre auquel j'ai rendu visite quand j'étais à la recherche du ton que je voulais pour la trilogie de Kuchiel, un ton qui pourrait mêler une bonne dose d'intrigue avec l'action un peu flamboyante de la Cape d'Épée.
Also historical fiction. I mentioned Mary Renault earlier. Dorothy Dunnett for her complex plots, but I think you asked about film as well, and I can't cite a specific movie or movies, but that cinematic eye informs the way I write. I think very cinematography. I'm not going to be able to get that out. But I do see scenes unfurl as though watching a movie and then try to capture the essence of them descriptively.
Sorry. Non, j'ai parlé de la fiction historique, par exemple Mary Renault ou Dorothy Donut, qui m'ont beaucoup inspiré pour leur intrigue très complexe. Vous avez parlé de films également, je ne sais pas quel film citer vraiment de façon très spécifique, à part que la façon d'écrire un peu cinématographique influence la façon, en tout cas nourrit la façon dont j'écris. Je vois beaucoup en fait les scènes se dérouler devant mes yeux, un peu à la façon d'un film, et j'essaie d'en capturer l'essence dans la façon dont j'écris.
Donc, qui dit roman historique dit personnage historique. Jean-Philippe, tu en as pas mal dans ton roman, des personnages qui ont existé. Comment tu te les appropries ?
En fait, une des difficultés que j'ai traitées dès le début, enfin que j'ai compris que ce serait un obstacle, c'est de bien faire la différence, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté pour le lecteur, entre ce qui était juste au niveau historique et ce qui allait pas l'être du tout. En fait, j'ai choisi surtout de placer la recherche historique et le détail historique dans les décors, dans les rues de Paris, dans les petits métiers, les gens qui sont croisés dans la rue au fur et à mesure des allées et venues des héros du livre. Et ceci étant dit, à l'inverse, les grands personnages historiques que j'ai pris, là j'ai décidé de m'amuser et que ce soit clair pour le lecteur dès le début. C'est pour ça en particulier que dès le deuxième chapitre, on trouve une femme aux commandes de la France comme présidente du Conseil. Comme ça, quelque part, les choses sont claires dès le début. Avec les grands personnages, on s'amuse. Donc après, on va croiser Lénine, Nicolas II, Fulgence Bienvenue, l'ingénieur du métro. Et Papus, le grand occultiste de l'époque. Et après, je prends beaucoup de liberté avec eux, sachant que ce que je trouvais intéressant, c'est que quelqu'un qui découvre cette histoire-là puisse après aller voir sur Wikipédia, aller les taper et se rendre compte qu'il y a des petits clins d'œil et que Lénine était bien là à l'époque, que par exemple Papus est bien allé voir Nicolas II en Russie pour invoquer l'esprit d'Alexandre III pour l'aider à régler les problèmes révolutionnaires de 1905. Donc, et qui a été mis à la porte manu militari par Rasputin, qui n'aimait pas qu'on marche sur ses places-bandes. Donc tout ça, c'est des... Enfin, quelquefois, il n'y a pas besoin d'imaginer, c'est dans l'histoire. Et puis après j'ai pris pas mal de liberté pour tout le reste.
Question à tout le monde. Vous êtes inspiré de personnages historiques pour vos différents romans, Laurent?
Une seule fois dans une nouvelle du recueil Blague à part, qui n'est pas sur la table, mais que je vous conseille d'aller tout de suite acheter. Sur une des nouvelles, effectivement, je suis parti du président des États-Unis dont le nom m'échappe, mais Jacqueline va m'aider. C'est celui qui a fait la première proposition de Société des Nations à la fin de la guerre de 14-18.
Quelqu'un, Wikipédia, un iPhone?
Enfin, Wilson, voilà, Woodrow Wilson, merci. Donc je suis parti de ce Woodrow Wilson, essayer de lui donner un caractère que je ne connaissais pas, on n'a pas d'enregistrement de sa voix ou de choses comme ça, mais surtout partir de son idée de Société des Nations pour emmener l'histoire complètement à l'opposé de la galaxie, où là, admettons des puissances extraterrestres étant très anxieuses de renouveler les ambassadeurs de la Terre sur leur point central, sautent sur l'occasion de cette proposition de Société des Nations pour dire « Ah, ça y est, ils ont franchi le cap, ils peuvent venir ». Après, la question est de savoir pourquoi ils sont si pressés. Mais je crois que c'est la seule fois que je suis parti d'un personnage réel et en fait, j'ai utilisé ce qu'il a fait pour inventer une histoire qui n'avait rien à voir. Et le reste du temps, j'ai beaucoup de mal à partir de personnages réels parce que je pense qu'il y a un vrai travail d'historien à faire Moi, je ne suis que écriveur quand j'écris des romans, publicitaire le reste du temps. Et à l'inverse de pas mal de publicitaires, je dois avoir un ego qui passe sous la table et je ne me sens pas capable, je ne me sens aucune légitimité à écrire des histoires sur des gens qui ont existé. Mais j'aime beaucoup que d'autres le fassent parce que j'aime bien les lire. Je viens de lire Un pays à l'aube de Denis Lehan, c'est The Given Day en anglais. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, de précision et de qualité littéraire. On n'arrive pas à faire la différence entre ce qu'il n'est pas possible qu'il ait su et ce qui est su. Bref, je suis épaté par le boulot de ces gens-là, le boulot de Jean-Philippe, de Christina, de Jacqueline, mais c'est trop fort pour moi.
Jacqueline?
I thought Lawrence said at the end of 1980, I'm listening with both ears, and that made no sense to me. But as far as the question goes, no. I don't have much to add to that. I do write historical fantasy for a reason. I love doing the research, but I love being held to what I call a standard of plausibility rather than accountability.
Bon, en ce qui concerne la question, la réponse que j'ai à vous faire, c'est non. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à ajouter. Non. Plus sérieusement, la raison pour laquelle j'écris de la fantasy historique, c'est tout simplement que j'adore faire ces genres de recherches. Et je m'astreins plutôt, on va dire, à des certains critères de plausibilité dans mon histoire, plutôt que d'exactitude.
Christina ?
Oui, moi je suis tout à fait d'accord, il faut... Et Laurent a vraiment raison sur un point, et c'est très important, c'est lorsqu'il dit qu'il y a un travail d'historien derrière. Parce qu'on dit s'approprier des personnages. Quand on parle de personnages historiques, enfin, moi, ce qui me concerne, je ne peux pas dire que je me les approprie, parce qu'il ne faut pas oublier, je ne sais pas, j'ai peut-être une éducation à l'ancienne, mais il ne faut pas oublier qu'on travaille avec des morts, et on ne s'approprie pas les morts. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi avec. Donc en effet, il y a des recherches, on peut jouer, on peut rajouter des éléments, on peut rajouter des personnages autour, on peut imaginer des situations, mais il ne faut pas non plus en faire n'importe quoi. Donc c'est vrai qu'il y a un gros travail de recherche derrière, qu'on n'est pas à l'abri de l'incident. Moi je suis sûre que j'ai fait énormément d'erreurs et que beaucoup d'auteurs en ont fait aussi. Donc, mais d'un autre côté, c'est vraiment fascinant de partir d'une réalité et puis d'imaginer peut-être ce qu'elle a pu devenir ou de rajouter d'autres personnages pour transformer la réalité telle qu'elle a été. Et ça peut devenir vraiment féerique.
Vous avez parlé de recherche, on va développer un peu ce point-là. Quand on écrit un roman historique, donc il faut vraiment rentrer dans le détail. Sur votre dernier roman, vous avez passé combien de temps, par exemple, avant de vraiment vous attaquer à la rédaction ?
Disons que ça fait tellement longtemps en fait que je travaille sur l'Antiquité que j'ai plus vraiment besoin de faire de grosses recherches. Donc ça va faire pratiquement 15 ans maintenant que j'étudie le sujet. Mais comment dire, il y a peut-être un défaut qu'ont parfois les auteurs et que j'ai eu au début et que d'autres auteurs plus âgés m'ont corrigé. C'est que lorsqu'on écrit un roman historique, on a tendance à vouloir un peu étaler ce qu'on a appris. Parce qu'on est tellement content d'avoir fait plein de recherches, on est tellement content d'avoir trouvé plein de petits détails, qu'on va tendance à, on a tendance à faire des descriptions de 4 pages, à expliquer que là où Jules César a mis le pied, alors il s'est passé il y a 30 ans, machin bidule. Et ça, pardon, je vais être un peu vulgaire, ça emmerde le lecteur. Je veux dire, tout l'art vraiment d'un roman historique, c'est de faire passer l'histoire, de faire passer l'événement historique sans que le lecteur s'en aperçoive. Il faut vraiment lui donner l'impression. Il est au milieu de l'action, il est au milieu des personnages, et il se sent comme chez lui. Donc tout l'art et toute la difficulté du roman historique consiste à ça, c'est-à-dire à faire passer l'histoire, à déplacer le lecteur dans un lieu donné, à une époque donnée, sans que ce soit douloureux et sans qu'il s'en aperçoive, et surtout sans qu'il n'ait pas l'impression d'être un cours d'histoire, parce que alors là, c'est carrément soporifique.
Merci. Laurent.
Moi, c'est très simple, je ne fais aucune recherche, donc je gagne du temps. En revanche, je rejoins l'avis de Jacqueline sur la plausibilité. Et je me rappelle d'un mot de Ridley Scott lorsqu'il avait tourné Gladiator. Il y avait dans la bataille du début des archers qui étaient censés tirer des flèches enflammées. Et on voit une rigole de naft ou de pétrole, je ne sais pas. Il allume tout ça et tous les archers plantent leurs flèches dans cette rigole enflammée pour pouvoir tirer tous ensemble une flèche enflammée. Eric Lesseau disait, je ne sais pas si ça s'est passé comme ça, mais à un moment, il a fallu qu'on tourne la scène et on s'est dit comment il faisait pour envoyer toutes ces flèches enflammées en même temps alors qu'ils n'avaient pas chacun un briquet. Donc ils ont réfléchi sur le coup en se disant c'est probablement comme ça ou d'une autre façon, mais d'une façon similaire, qu'ils s'y sont pris. Et très souvent, lorsque j'écris des histoires, lorsque je me pose la question lorsque le personnage rentre dans une pièce, comment elle est éclairée, par quoi ? Dans Jim, c'est un monde qui a une technologie à peu près renaissance. Il n'y a pas de lumière électrique. On est dans un château. Comment on éclaire le château ? C'est des questions toutes bêtes, mais finalement, quand on n'est pas historien, on est obligé de se creuser la tête et de trouver des solutions qui, en plus, peuvent avoir un côté merveilleux. On peut avoir, par exemple, sur une table, un bocal où tournent des anguilles électriques dont l'électricité fait des flashs qui éclairent d'une façon régulière. Je ne sais pas, je dis ça parce que je l'écris, mais ça peut être des idées de ce genre-là qui n'ont rien à voir avec la réalité. Mais à partir du moment où on se pose la question qui est liée au décor qu'on a créé, on est obligé de trouver la réponse. Et si en plus la réponse plus ou moins technique peut intervenir dans l'histoire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va faire avec ses anguilles électriques, là on a passé le cap suivant qui est le problème dont tu parlais tout à l'heure. J'ai étalé tout mon savoir, j'ai étalé mes anguilles électriques. Si je ne veux pas emmerder le lecteur, qu'est-ce que j'en fais ? Pour que ce soit une histoire intéressante. Donc voilà, c'est pas des recherches antérieures, c'est plutôt dans le cours de l'écriture, les questions que je me pose vont influer sur le décor et sur la façon dont les personnages vont interagir avec ce décor. Jean-Philippe, c'est à toi.
Merci. Non, mais je suis entièrement d'accord que l'essentiel de la recherche historique, souvent, c'est sur les détails. Où on passe un temps fou à chercher des petits détails parce qu'on doit décrire une scène et puis on se dit voilà, qu'est-ce que j'ai le droit d'écrire parce qu'on ne peut pas écrire un anachronisme énorme et donc on... après moi l'essentiel des recherches a porté aussi sur les décors, en particulier en faisant les recherches sur ce bouquin là j'ai découvert le Luna Park de Paris qui était à la Porte Maillot en 1910, un lieu que je ne connaissais pas du tout, et ça m'a donné envie de creuser. Je me suis dit, il faut à tout prix que ce soit un lieu important dans le roman. Et à part ces détails, ces décors, et où se cache vraiment la véracité historique du roman, et où j'ai essayé de pas raconter d'ânerie, et qui a pris, donc, pour répondre à la question, je ne sais pas, à peu près une année, mais enfin, ça ne se mesure pas comme ça, parce que c'est du plaisir, c'est aussi, on fait ça pour... Voilà, le week-end parce que c'est agréable. Par contre, contrairement à ce que disait Christina tout à l'heure, moi je me suis quand même autorisé la possibilité de m'amuser un peu avec les gens qui sont morts, effectivement, même si effectivement, Lénine est mort, paix à son âme, je me dis que c'est quand même suffisamment un personnage emblématique ou quasiment une image de marque qui fait qu'on a le droit de s'amuser avec lui. Et ce que j'ai surtout essayé de faire avec tous ces personnages historiques, et donc principalement Lénine, Papus, c'est d'essayer de trouver, de me mettre à leur place, quoi, et de me dire, bon, certes, ce sont enfin, en tout cas pour Lénine, des grands personnages historiques, mais il était en exil à Paris, il n'était pas dans son bocal, quoi, et j'essaie de penser surtout dans une situation franchement fantastique et une histoire pas du tout historique pour le coup, histoire avec des fantômes et des gens de l'au-delà. Voilà, comment aurait réagi Lénine, et puis essayer de le prendre complètement à contre-pied, puis m'amuser un peu, sachant que ce que je trouve sympathique dans ces personnages-là, c'est qu'il y a tellement un imaginaire fort déjà accroché au personnage, parce que tout le monde le connaît, que il n'y a pas besoin de décrire pendant des pages et des pages qui est Lénine, tout le monde le sait. Et on peut commencer en ayant économisé 100 pages et à s'amuser un peu avec le personnage et l'inclure dans l'histoire. Et en fait, tout le reste, c'est du fantastique et c'est de l'amusement pur.
Non, peut-être, oui, je vais rebondir sur quelque chose qu'a dit Laurent, très important. Quand il dit justement qu'il faut, parfois imaginer des choses. Je crois que les gens ne se rendent pas compte à quel point, en parlant d'histoire et en parlant de faits historiques, beaucoup de vérités historiques ont été sorties au jour justement par des auteurs de fiction et par des gens qui n'étaient pas historiens. Pourquoi ? Parce que les historiens ont leur nez dans, leurs archives et, ou le nez dans, dans les recherches des archéologues. Et parfois, l'évidence ne leur saute pas à la figure. Comme ça sauterait la figure d'un auteur ou de vous, de moi, de n'importe qui. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps, mais il y a une toute petite anecdote que j'aimerais, par exemple, vous raconter en ce qui concerne les galères romaines. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais les galères romaines, ça s'appelait des birèmes, des trirèmes, des quadrèmes, des quinquirèmes. Et les historiens vous disent que ça correspond au rang de rame. C'est-à-dire, une birème, ça a 2 rangs de rame, une trirème, ça a 3 rangs de rame. Alors, je ne sais pas si vous imaginez une quinquirème avec 5 rangs de rame. C'est-à-dire, le type en bas, il a une cuillère à soupe, et le type en haut, alors je ne sais pas, il a une perche, ou je ne sais pas. Bon. Et les historiens vous soutiennent avec dessins à l'appui, avec graphique. Alors, ils essayent de mettre les types en échelle, en machin. Enfin bon, mais il y a des bouquins et des bouquins qui ont été écrits là-dessus. Et moi, un jour, j'étais au Cap Circéen, et un type qui fabriquait des barques. Et il m'a attiré mon attention parce qu'il avait plein de petits dessins, plein de gribouillons, on aurait dit des hiéroglyphes. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait, ce type? Et en fait, c'est un monsieur qui était au bord de la retraite, il ne savait ni lire ni écrire. Et il prenait ses calculs avec ses signes à lui, c'est-à-dire il avait sa propre écriture. Et puis j'ai quand même voulu, je lui dis, tiens, au moins lui, il fabrique des bateaux, on va lui demander, parce qu'il doit savoir de quoi il parle. Et il m'a dit, mais ce qui serait logique, puisque les birèmes allaient sur les rivières, et les quinquirèmes, donc 5 rangs de rames, allaient en mer. Il dit, c'est que ce n'est pas les rangs de rames, c'est le nombre de rameurs par rang. Et là, c'est logique, parce que les birèmes, c'est 3. Deux paires de rameurs, les quinquirèmes c'est large, ça tient la mer, et voilà. Et c'est un type analphabète qui fabrique des barques au Cap Circéen, et à mon avis, c'est lui qui a la bonne solution. Donc c'est très important, en effet, et on n'imagine pas du point de vue historique ce que les auteurs et les gens lambda, entre guillemets, peuvent apporter justement à l'histoire.
Est-ce que vous faites appel à des gens lambda, des amis, pour vous aider justement dans ces recherches ? Jean-Philippe, pour changer.
Non. Non. Je fais juste appel à ma femme pour relire. Mais c'est en fait, comme je disais en intro, le plus important pour moi, c'est surtout l'intrigue que le lecteur ait pris, qui est à chaque chapitre, qu'il a envie de lire la suite, qu'il soit. Et bon, voilà, le réalisme historique, je me suis senti. Enfin, non, je sais pas où. J'ai senti que justement, je pouvais m'accorder suffisamment de fantaisie et que c'était pas grave si dans un coin il y avait quelque chose pas tout à fait correct. Donc après, j'ai fait les recherches parce que ça m'intéresse, mais j'ai fait vérifier par personne.
Laurent, t'as fait appel à un éleveur d'anguilles électriques ou...
Non, moi je fais pas appel à des gens lambda, mais je fais appel justement aux professionnels. Dans le sens où j'essaye de ne pas rater un documentaire sur les sujets qui m'intéressent. Soit pour apprendre des choses dessus, soit pour vérifier qu'on ne sait pas. Et par exemple, j'ai essayé d'écrire une histoire sur les dessins Nazca. Vous savez, ces dessins qui font des centaines de mètres qu'on ne voit que depuis le ciel. Et mon histoire tenait tant qu'on ne savait pas à quoi ils servaient. Donc chaque fois qu'il y a un nouveau documentaire sur les Nazca ou un nouveau bouquin, tout de suite je fonce pour voir, est-ce qu'on est sûr de nous ? Non, pas encore, ça va, je peux continuer à l'écrire. Enfin, je peux continuer à inventer n'importe quoi. Mais d'un autre côté, je suis aussi assez intéressé par l'évolution de ce qu'on sait ou de ce qu'on sent du temps passé. Là, dernièrement, j'ai vu un documentaire qui m'a passionné. Et là, on retrouve le sujet qui est réécrire le passé pour en réenchanter le présent. Quelqu'un qui expliquait que à l'époque des barbares, ces barbares qui arrivaient, qui ravageaient tout, mais ils n'étaient pas si barbares que ça parce qu'ils avaient des armes, ils avaient donc des forgerons, ils avaient des gens qui savaient fabriquer de l'acier. En gros, ça voulait dire que derrière ce fer de lance des gros méchants pleins de muscles qui arrivaient pour tout ravager, il y avait toute une société, toute une civilisation qui ne fonctionne pas sur un mode barbare, qui fonctionne sur un mode civilisationnel qui n'est peut-être pas exactement le même que le nôtre,
mais des gens normaux qui travaillent, qui ont des enfants, qui ont des connaissances, des savoir-faire, qui ne sont pas des pilleurs, mais qui ont développé des sciences ou des, en tout cas des techniques. Et pour moi, ça a confirmé une intuition que j'avais et que j'essaye de faire passer dans mes bouquins, qui est que, quelle que soit l'époque, les gens ont fait ce qu'ils ont pu pour vivre heureux. Et on a souvent une image, par exemple, de l'Angleterre victorienne, avec, je ne sais pas si c'est victorien d'ailleurs, mais à l'époque de Jack l'Éventreur, par exemple, où c'était abominable, Londres, c'était un cloaque immonde. Peut-être, mais je suis persuadé que dans ce cloaque immonde, les gens qui vivaient là faisaient de leur mieux pour vivre heureux. Les hommes préhistoriques aussi, les Romains aussi, les barbares aussi. Et cette dimension de cette quête du bonheur chez les gens anciens nous échappe souvent quand on les juge à partir de notre niveau technique actuel. Ils n'avaient pas l'eau courante, comment faisaient-ils pour être heureux? Ils avaient des tas de maladies, comment faisaient-ils pour vivre heureux? Je suis sûr qu'ils se débrouillaient. Je ne sais pas comment, mais ils ne se sont pas tous flingués. La preuve en est là.
Jacqueline?
What was the question?
Laurent, no, no. C'était quoi la question? Est-ce qu'on fait appel à des
I do most of my own research, unless I do need the assistance of a professional. I call myself a Fortress of Solitude style writer after Superman's house. Partly because, for me, research and the creative process are entwined, and I don't know what I'm going to come across that is going to spark my thoughts and creativity and help me flesh out where I'm going in the plot that I already have sort of built in my mind.
Donc je demande souvent l'assistance d'un professionnel, mais je dirais que je suis quand même un écrivain que je qualifierais dans le style de la forteresse de solitude, pour reprendre le nom de la forteresse de Superman. Donc je dirais, en ce qui me concerne, le processus créatif et les recherches sont vraiment très 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 entremêlés l'un avec l'autre, parce que je ne sais jamais quand je vais tomber sur une petite étincelle ou un petit élément de détail qui va mettre le feu à ma créativité et quelque part m'aider à mettre de la chair sur l'intrigue à laquelle j'ai pensé. Donc les deux sont vraiment vraiment entremêlés.
And I think going to what Laurent was speaking about, really needing to get into the mentality of who you're writing about, because normal is normal to you as you're living your life, whether you're a barbarian or a Roman. I came across something doing research, an interview with one of the last survivors in New Guinea of during the time of cannibalism, and because the infant mortality rate was so high, when one tribe would raid another, they would spare the infants, adopt them, and raise them as their own. And I read an interview with a man who was basically raised by the people who ate his parents. And his pragmatic attitude about that doesn't show up anywhere specifically in my fiction, but it helped me understand a culture in which child sacrifice was practiced, and how if it's normal to you, it's normal.
Where was this place where it happened? This interview?
I think it was New Guinea.
In New Guinea.
New Guinea, okay. Je veux aussi revenir sur quelque chose que Laurent a dit, c'est-à-dire sur la nécessité de se mettre dans la mentalité des personnes qu'on dépeint, parce que ce qui est normal pour quelqu'un est véritablement, il y a véritablement des différents standards de normalité. Qu'on soit barbare, qu'on soit romain, etc. Ce qui est normal, ce qu'on considère normal, c'est peut-être pas pour nous, mais pour ces gens-là, ça l'était. Ça me rappelle par exemple une interview que j'ai lue d'un des derniers survivants de l'époque du cannibalisme, je crois que c'était en Nouvelle-Guinée, où la mortalité infantile était tellement haute que quand parfois des gens tombaient sur des enfants d'un couple, des gens qui avaient été mangés, ils l'adoptaient, l'élevaient comme étant le leur. Et par exemple, je suis tombé donc sur ce témoignage de cette personne qui a été élevée par en gros les gens qui ont mangé ses parents. Et il y avait une espèce d'attitude vraiment pragmatique avec ça. Alors bon, c'est pas un élément que j'ai utilisé véritablement dans ma fiction, mais cet aspect pragmatique, à partir du moment où les choses sont normales pour vous, ça m'aide beaucoup à comprendre et à mettre en scène ce que je veux essayer de dire. Et ça m'a par exemple aidé à comprendre une culture où le sacrifice d'enfants est considéré comme étant normal.
Christina, quelque chose à ajouter ?
Moi, je travaille plutôt en équipe, en fait. Alors c'est vrai que j'écris toute seule, hein, je pense que comme tout le monde, mais j'adore travailler avec les lecteurs, j'adore travailler avec mes amis, j'adore travailler bien sûr avec les spécialistes, et de toute façon ils m'attendent au tournant, donc j'ai pas trop le choix, mais c'est vrai que moi j'adore quand des lecteurs m'envoient des mails ou des courriers en me disant j'aimerais bien qu'il se passe ci, ou j'aimerais bien qu'il se passe ça, ou j'aimerais bien que le personnage voyage à tel endroit, et j'aime demander l'avis des gens. Et c'est vrai que Jacqueline a raison, quand on est écrivain, on est schizo. C'est-à-dire qu'on est vraiment obligé de se mettre dans la peau de plusieurs personnages. Et je vous assure que quand vous sortez d'un chapitre, vous êtes physiquement épuisé, mais vraiment. Parce que vous passez vraiment d'un personnage à l'autre. Et c'est vraiment fatigant. Donc moi, je pense que travailler toute seule, vraiment, moi j'admire, hein, parce que travailler toute seule dans son coin comme ça, faire des recherches... Moi, arrive un moment, j'aurai plus d'idées, j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin d'idées, j'ai besoin des gens. Au bout d'un moment, je serai complètement creuse, quoi. Donc, voilà.
Il nous reste quelques minutes. Y a-t-il des questions dans le public ? Soyez pas timide, allez. Oui. Merci Laurent.
Oui, je disais donc, je ne m'étais jamais imaginé que Terre d'Ange était inspirée de la Provence. Je l'imaginais beaucoup plus inspirée de l'Anjou, en fait. Bizarrement. L'Anjou de la Renaissance.
Non. Although, while the time frame is more 1400s, I did give them a Renaissance sensibility. So, as you know, I play with the timelines over the course of the series, so some cultures have been brought forward and others held back a little.
Donc non, c'est vrai que la fenêtre temporelle où ça se passe est plutôt le 15e siècle, mais c'est vrai que j'ai donné au d'Angelin une sensibilité plutôt renaissance, mais bon, je joue beaucoup avec l'histoire dans la série. Il y a certaines cultures que j'ai un peu avancées dans le temps, d'autres que j'ai plutôt retenues, reculées, donc je me permets ce genre de liberté.
Une autre question ? Laurent devant, a priori, non ? Si, si.
Est-ce que vous pensez que réécrire l'histoire qui pourrait être celle de la France avec un dieu différent, une religion différente, c'est la possibilité de réenchanter la terre de France ?
I would like to think so. I think all of you would be a better judge of that than I would. What do you think? Oui?
J'aimerais à le penser, mais je pense que vous seriez tous de meilleurs juges que moi pour le dire. À vous de le dire. Le pensez-vous?
Donc, dernière question pour finir. Parlons un peu d'avenir. Vos prochains romans, ils seront aussi inspirés de l'histoire ou pas du tout? Christina.
Bah, moi, je suis au troisième tome de la série, donc de la série de, des enquêtes de Caeso le Prétorien. Donc oui, ça va se passer à Rome.
I actually may take a break from history for the very next project I do. I need to mix things up in between to just refresh my palate.
Il est possible que je fasse un peu une pause d'avec l'histoire pour le prochain projet. J'ai besoin de mélanger 2-3 éléments pour rafraîchir un petit peu ma palette créative et penser à de nouvelles choses.
Oui, donc pour ma part, j'ai souhaité continuer dans l'idée de détrôner les grands personnages historiques et donc je me suis attaqué à Nostradamus, 16e siècle, dans le sud de la France, Salon de Provence, et donc. Un roman qui est en relecture, qui est terminé.
Laurent,
ça marche ? Oui. Je suis en train d'écrire le troisième livre des aventures de Jib, qui sera une sorte de préquel, qui s'appellera Jib les menteurs. Et j'écris un roman totalement historique en littérature blanche, puisque ça raconte l'histoire de mon père. Ce sera pour mon papa. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si on en est déjà à la conclusion, mais comme on en était à réécrire le passé pour réenchanter le présent, il y a un principe qu'on utilise en constellation familiale qui consiste à dire qu'il ne faut jamais exclure quoi que ce soit de son passé personnel, de sa famille, de ses ancêtres. Et je pense qu'en réécrivant le passé d'une façon agréable, vivable, on est en train de le réintégrer dans notre présent pour donner plus de valeur, plus de sens et plus de justesse au présent. Si on y arrive, c'est bien.
Ce sera le mot de la fin. Donc merci Jacqueline, merci Christina, merci Jean-Philippe, merci Laurent et merci Lionel, évidemment, merci au public. Donc vous pouvez retrouver toutes ces personnes à la bulle de livres en dédicace et sur différents stands. Merci.